Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue.
Je ne retiens pas les noms, mais bonsoir.
Je suis Caroline.
Bien sûr, bien merci, je suis très ému.
Mais non,
je suis très ému parce que l'autre jour, j'ai écouté une émission, votre émission, et il y avait plusieurs personnes qui parlaient du cancer, des souffrances, de gens qui sont malades, de la souffrance également.
Oui, il en a été beaucoup question, oui, ces dernières semaines, ces deux dernières semaines, on a beaucoup parlé, oui, du cancer.
Oui, j'ai remarqué ça, et alors je me suis senti concerné parce que j'ai perdu ma femme au mois d'août 2022, donc elle n'est pas tout à fait un an.
Oui.
Que j'ai perdu un frère et un beau-frère d'un cancer, et ma femme avait également deux autres frères vivants qui ont également un cancer et qui sont d'un courage inouï. Mais j'ai du mal à me situer dans tout cet environnement, si vous voulez. Il y a des fois où je perds pied parce que c'est pas moi qui je souffrais en tant que aidant. C'est un peu le mot fourre-tout, si je peux me permettre. Mais je sais pas trop comment faire. Alors je vois une psychologue pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, d'essayer de faire ressurgir les bons moments, les bonnes choses. Mais comme je disais à la personne qui m'a reçu tout à l'heure, le problème c'est que j'ai dans la tête et dans les yeux l'image de ma femme décédée, qui était malade du foie, qui avait un cancer du foie à la fin, si vous voulez, qui était toute jaune. Oui. Et y a des images qui me sont très difficiles à extirper
Je comprends, qui sont traumatiques en fait.
Oui,
c'est ça, vous, elle, quand vous dites que vous avez du mal à les extirper de votre tête, c'est-à-dire que elles sont envahissantes dans la journée, elles s'imposent à vous, vous avez du mal à penser à votre femme autrement, pour le moment, qu'à travers ces images de souffrance.
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Je voudrais que ces moments, ces images, ces dernières images, si vous voulez, parce que, bon, quand elle perdait ses cheveux, quand elle perdait les ongles, j'irais dire, on savait que c'était normal, on savait que c'était comme ça, et pour tous les gens qui sont dans cette situation. Mais là, cette image, elle est très personnelle, si vous voulez, c'est l'image, l'image de la fin, quoi, l'image de la mort.
De l'agonie,
De l'agonie, voilà, c'est ça. Et même si tout s'est fait, j'irais dire, presque dans le silence et dans l'apaisement, parce que ma femme s'était vraiment préparée mentalement, m'avait préparée également, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais malgré tout, je voudrais pouvoir laisser la place, si vous voulez, dans ma tête, au bon moment qu'on a eu dans notre vie. On est restés 44 ans ensemble, et je n'y arrive pas. Je suis suivi par, j'ai recours à une psychologue qui m'aide beaucoup en ce sens, qui m'aide beaucoup pour d'autres choses, mais malgré ça, j'ai du mal, j'ai des angoisses, vous voyez, ça me prend, dans la journée, ça va mieux.
Oui.
Parce que il y a du mouvement.
Oui.
Qu'on rencontre des gens.
Oui.
Mais le soir, ou particulièrement la nuit, quand je me réveille, j'ai des étouffements terribles. Au point, quelquefois, d'aller aux urgences, parce que maintenant, je sais ce que c'est.
Vous êtes oppressé.
Oppressé.
Maintenant, vous savez que c'est de l'angoisse, en fait.
Voilà.
C'est ça.
Alors, il y a un nom sur ce malaise, effectivement. Vous avez raison, il y a un nom sur ce malaise, et ça m'aide, parce que je sais que je peux pas en mourir, si vous voulez. Mais c'est ce que ça fait ressortir, Pendant 10 ans, j'arrivais pas à dormir, parce que j'écoutais son cœur, j'écoutais son souffle. Je voulais voir si elle souffrait. C'était une vie intense et c'est une vie en même temps, puisqu'il n'y avait pas de... C'était irréversible, c'est des maladies généralement. Heureusement, il y a des gens qui sont guéris. Mais en l'occurrence, dans ce cas, c'était irréversible. Et pourtant, on trouvait de très bons moments. On arrivait à... grâce à elle, d'ailleurs, on arrivait à surmonter toutes ces difficultés, à se trouver bien. Mais là... Est-ce que c'est le printemps? Est-ce que c'est le soleil? Des soirées un peu plus longues dans la solitude, puisque je n'ai pas d'enfant, puis je vis à la campagne.
Oui.
Cette maison qui était un paradis est devenue, je vais pas dire un enfer, mais dans les mauvais jours, oui, un petit peu quand même.
Oui, vous ne trouvez plus vos repères. Il n'y a que le... C'est plus un refuge. Est-ce qu'était votre paradis à tous les deux? Et c'est plus un refuge, quoi. Vous vous sentez mal, même dans cette maison.
Oui. Alors, j'ai beau essayer de faire du potager, de faire des choses en rapport avec la nature. J'ai un petit chien, bon, j'ai tout pour prendre en main ma vie. Mais c'est l'échange qui me manque, c'est regarder la télé, écouter un oiseau, je sais pas, et en parler. À tout moment, pouvoir parler à quelqu'un, enfin, c'était pas à quelqu'un, c'était à ma femme.
Mais oui, bien sûr.
Et ça, c'est malheureusement aussi irréversible, et ça me fait peur quelquefois, ça m'angoisse.
Mais il y a de quoi être angoissé, Philippe. Parce que quand on perd son conjoint, il y a évidemment un deuil à faire de la personne que l'on a aimée, mais il y a aussi le deuil à faire de la relation qu'on a eue. Vous le dites c'est d'ailleurs, ces moments de partage, toutes ces petites choses finalement auxquelles on ne fait pas forcément attention quand on les vit au quotidien.
Vous
êtes dans votre potager, vous avez vu quelque chose, vous rentrez, vous dites tiens. Enfin, ça fait partie du quotidien, c'est presque la banalité.
Oui. Mais c'est exactement ça, de la banalité qui meuble peut-être des journées parce que.
Mais qui font.
Pas compte,
c'est le partage en fait. C'est le lien, c'est la complicité. Voilà. C'est comme vous dites pouvoir parler, c'est pouvoir.
Exactement.
Enfin, c'est toute cette. Quelque chose qui est presque indicible, ce lien qu'on construit avec l'autre et ces bonheurs simples de partager des petites choses comme ça.
Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, on peut aussi, ce qui nous arrivait souvent, c'est parce que moi je suis assez bavard, ma femme l'était beaucoup moins, mais c'était aussi les regards, les expressions, les mimiques, c'était tout un tas de petites choses qui constituaient une journée normale, mais confortable et agréable. Et évidemment, dans ma chambre le soir, quand je suis tout seul comme ça, je repense à tous ces bons moments. Et c'est difficile.
Mais oui.
C'est difficile, mais je voudrais en même temps.
Oui, c'est bien que vous ayez ce désir-là de vouloir. Vous aimeriez pouvoir conserver, enfin garder, qu'il y ait des souvenirs plus doux, plus heureux, de pas penser à elle dans ces moments, dans ces images terribles, parce que le cancer abîme aussi physiquement, malheureusement, dans les derniers temps de la maladie. Et vous savez, je pense que. Quand on traverse comme ça ce qu'on appelle pudiquement des longues maladies, parce que, est-ce que j'ai bien compris, vous dites pendant 10 ans?
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand elle m'a appelé, et puis elle m'a dit, voilà, je suis au travail, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je me doutais un peu, parce que j'avais vu au niveau de son physique une apparence qui ne trompe pas, et que j'avais vu quelque chose à la télé qui ressemblait à ça, si vous voulez, une déformation. Bon, je ne rentre pas dans les détails. J'avais compris qu'il y avait quelque chose, mais j'aurais jamais imaginé que ça puisse être à ce point. Et quand elle m'a annoncé qu'elle avait un cancer, je sais pas si j'utilise le bon mot, mais il y a les catégories ou les classes 1, 2, 3, 4, et elle était déjà, si vous voulez, identifiée en classe 4, ce qui veut dire qu'elle était déjà probablement souffrante ou atteinte, peut-être pas souffrir, mais atteinte de cette maladie déjà encore bien avant. Et pendant 10 ans, c'est dur à dire, parce que j'ai eu une vie merveilleuse, dans le sens où je me suis occupé d'elle, j'ai tout fait pour elle, j'ai tout essayé, parce qu'on croit qu'on a tout fait, il y a peut-être des manques, mais je me suis donné, mais à l'entraînement corps et âme pour elle, et ça a été pour moi dans le malheur, un immense, je sais pas si c'est très explicite ce que je dis, mais dans le malheur, un immense bonheur de pouvoir être là à tout moment, pouvoir la rassurer avec mes mots, avec mes erreurs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi ce manque de pouvoir aider. De pouvoir se sentir utile pour...
Je comprends,
voilà.
Je comprends, enfin, c'est plein d'amour, ce que vous dites. Vous avez aimé prendre soin d'elle.
Pardon ?
Vous avez aimé prendre soin d'elle. Prendre soin, on sent que vous êtes quelqu'un de certainement très sensible et très, enfin, et puis vous aimiez votre femme, mais on peut aimer son mari ou sa femme, mais on sent que chez vous, il y a cette fibre, vous avez aimé prendre soin d'elle aussi.
Ah oui, j'ai voulu. C'est une personne qui m'a tellement apporté, ainsi que sa famille d'ailleurs, hein, son environnement. C'est une personne qui m'a tellement apporté de bonheur, alors que j'avais eu une enfance qui était très heureuse. Hein, j'ai eu beaucoup de chance, mais psychologiquement, c'était pas toujours très 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 facile parce que c'était pas très facile. Mais j'ai eu une vie de rêve quand même. Mais quand j'ai pu m'occuper d'elle, je ne pensais pas non plus. Quand je dis, je pensais pas que ça irait si vite. En fait, ça n'a pas été rapide, hein, puisqu'elle est restée quand même. La médecine nous a offert 10 années de bonheur. Il y a eu des moments dans ce bonheur difficiles, les chimios, les bronchopneumopathies, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça.
Oui, mais toutes ces complications.
Il y a eu beaucoup de choses. Mais on arrivait toujours
à surmonter.
Ah oui, le moment le plus intense de ma vie, je crois, c'est quand elle sortait du cabinet, toujours au même endroit, à l'Oncopole, à Toulouse, hein, toujours au même endroit, même escalier, même porte, et je voyais tout de suite à sa tête si elle était très fatiguée, si elle avait besoin que je lui parle tout de suite, si elle me lançait un petit message pour que je laisse tranquille, vous comprenez, si c'était une bonne nouvelle, eh bien...
C'est ça, vous la connaissiez tellement, oui. Ah, vous alliez au restaurant quand il y avait une bonne nouvelle, oui, c'est ça.
Voilà, et quand il y avait une mauvaise nouvelle, on arrivait à trouver la force, enfin surtout elle arrivait à trouver la force d'aller également au restaurant.
Oui.
Et on a une vie à deux, mais alors quand elle est décédée, si vous voulez, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me sciait en deux et que je perdais tous les souvenirs comme on perd quelque chose sur Internet, si vous voulez. Ça a été terrible.
Mais parce que c'est comme si la maladie avait finalement amplifié tout ce que vous aviez à vivre ensemble, enfin,
oui, c'est ça,
exacerbé, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sent, et en même temps, en vous écoutant, je me dis que peut-être vous dites la médecine vous a aidé à tenir, il y avait, mais elle aussi, elle avait envie de vivre, et elle était portée par cet amour.
Absolument, c'est un peu injuste ce que je dis, c'est vrai que je crois qu'on peut partager entre la médecine et elle, parce que vous avez tout à fait raison, elle a eu une force mentale extraordinaire, je ne l'ai jamais vue se plaindre, ni être envieuse, quelqu'un en bonne santé, ni rien. Et quand elle ne voulait pas que je l'accompagne dans le cabinet du médecin, c'était sa maladie, elle m'a dit je veux me concentrer lorsque le médecin parle. Donc je l'amenais donc au pôle, et puis je l'attendais, bien sûr, j'étais toujours dans le hall. Mais la dernière fois, j'ai aussi cette image, quand elle m'a dit « Philippe, cette fois-ci, il faut que tu viennes ». Et quand je suis arrivé, le médecin a parlé de palliatifs et... Ça a été un choc terrible. Je m'y attendais, mais c'est le mot qui.
Mais oui.
Qu'on pense.
S'il fallait raccrocher, oui,
voilà.
C'est ça.
Et elle a dit je suis prête. Je suis prête.
D'accord.
J'ai eu devant le médecin, elle a dit ça. J'ai eu 43 ans de bonheur. On a été heureux. On a été bien. Et ça, c'est le côté qui m'aide. Qui m'aide.
Oui, qui vous réconforte. Savoir
voilà,
que
qui
c'est ça. Oui. Oui, on sent que vous oscillez entre ces deux pôles et d'ailleurs même dans votre voix, on sent que vous avez envie d'aller vraiment du côté de la vie et de garder d'elle aussi toute ce
oui,
parce que
absolument.
C'est magnifique d'avoir vécu aussi ce que vous avez vécu
Je suis d'accord. D'ailleurs, quand on en parle quelquefois avec de la famille ou des amis, et ça peut paraître un peu choquant quand on dit qu'on a eu d'excellents moments et que ça a été intense. Mais j'ai eu la chance, si on met un peu de côté la souffrance, il y avait quand même des médicaments pour
évidemment.
Ne pas souffrir, mais bon, on perd les cheveux, on perd les ongles, etc. Mais malgré tout, j'étais important. J'étais important pour elle. Parce que bon, j'ai pas toujours eu confiance en moi, mais là j'étais important.
C'est ça.
Je me disais, grâce
vous
à
vous sentiez
elle,
utile.
Voilà, mais grâce à moi aussi, on forme une équipe à deux et on se bat et il y a rien qui nous détrônera de tout ça.
Oui.
Et finalement, c'est la mort qui nous a séparés. C'est merveilleux quand même.
C'est-à-dire que vous aviez un objectif commun. Vous vous battiez ensemble. Enfin, on sent que.
Oui, c'est vrai.
Et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez aussi, évidemment, avec le vide laissé par votre épouse, mais aussi
c'est
avec ce qui vous donnait presque ce sens à un moment, c'était vous battre.
C'est ça, oui, c'est
qu'est-ce
vrai.
Que vous allez faire de l'énergie, parce qu'on sent qu'il y a de l'énergie. Moi,
oui,
en vous écoutant, je me dis que ça... ça peut arriver après, quand on est dans... D'abord, votre deuil est encore récent.
Oui,
parce que
oui. Elle
est partie en août 2022. Ça fait même pas un an. Donc, je trouve déjà, vu la façon dont vous me parlez d'elle, de ce que vous avez vécu, on sent qu'il y a déjà des étapes qui ont été franchies, un cheminement qui a été fait. Il faut vous donner du temps, même si le temps paraît toujours trop long quand on est mal. Mais il n'y a pas encore un an. Et, et je, souvent, dans ces maladies-là, ou dans des maladies, enfin, de toute façon, il n'y a pas de bonne maladie, hein, mais il y a des maladies comme ça qui peuvent dégrader aussi physiquement, où les fins de vie sont très difficiles.
Oui.
Ça peut créer quelque chose qui complique le deuil, un état de stress post-traumatique, en fait. Quand vous me parlez de ces images envahissantes, vous voyez, au fond, où vous voudriez pouvoir penser au bon moment, à des choses, y compris d'ailleurs... pendant la maladie, puisqu'il y a eu des bons moments. Et en fait, il y a des images qui s'imposent à vous, dures, terribles, très angoissantes. Ça peut évoquer un stress post-traumatique, qui est un état psychologique très fréquent après, quand on a accompagné... Ah oui, quand on a accompagné un proche souffrant dans une maladie longue. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus, au fond, à... On voudrait, comme vous, mais... quand on pense à la personne, en fait, ce sont ces images parasites qui s'imposent.
C'est exactement ça. C'est comme un flash.
Voilà.
Dès que je sens que je peux, comment dire, c'est pas le mot non plus, mais avoir l'opportunité de penser à ces bons moments, de commencer à regarder des photos, il y a une sorte de flash, comme si comme si je prenais des phares en pleine figure.
C'est ça.
Et que ça me rappelle, attention, tu vas être heureux, mais
c'est le trauma.
Elle a souffert.
Il
voilà,
y a quelque chose qui s'active dans votre cerveau et où tout d'un coup, c'est ces images-là qui forcément sont au-delà de l'image, il y a la réalité qui a été extrêmement éprouvante.
Et
alors ça peut-être, c'est bien de pouvoir en parler avec votre psychologue, parce que justement avec un professionnel, on ne craint pas de parler réalité d'une fin de vie et d'une agonie. Ce qu'on ne fait pas. Ce que l'on ne fait pas spontanément avec ses proches, avec ses amis, avec son voisin, même parce que en fait on veut les protéger, on veut les épargner, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui des images qui seraient morbides, on veut les protéger de ça. Là où dans le cabinet d'un professionnel on peut le faire, on peut évoquer des choses qui paraissent choquantes au commun des mortels et qui le sont de fait, mais sans craindre d'ébranler le psy que l'on a en face de nous, qui peut entendre et qui peut traverser cela.
Oui, et c'est vrai que je commence parce que j'ai eu la chance de tomber sur une psychologue avec laquelle ça passe très bien. Disons que je me sens à l'aise pour parler, pour exprimer, parce que je suis quelqu'un d'heureux avec un drame. Voilà.
Mais on entend que vous avez. Oui, on entend cela. Vous n'êtes pas quelqu'un de dépressif, ça c'est.
Non, pas du tout, non.
Non.
Mais c'est vrai que la vie continue autour de nous. Bon, j'ai dans ma famille des gens qui vont se marier, il y a des naissances, il y a tout ça.
Oui.
Et c'est vrai que chaque fois que la famille avance d'un pas, j'ai l'impression de reculer, moi, d'un pas, si vous voulez. J'ai l'impression de me sentir vieux à 72 ans, je suis pas trop vieux.
Non.
Ça commence à aller un petit peu mieux. Mais bon, il y a peut-être des choses qui sont encore prématurées. Regarder des photos, faire des photos, etc.
Peut-être
là aussi.
Oui, peut-être. Mais oui, c'est ça. Il faut pas trop. Pour le moment, je trouve que déjà, je vous dis ça fait pas un an que votre femme est partie, et je trouve que déjà, on sent qu'il y a quelque chose de très vivant qui s'exprime en vous. Mais effectivement, il y a un temps où on est en décalage avec les autres. Quand vous parlez des événements familiaux, les mariages, la vie qui est là, qui s'inscrit à travers la vie de la famille, les mariages, la naissance d'enfants, forcément, vous êtes un peu en décalage.
Oui, et puis je crois
parce que vous êtes dans votre deuil.
Voilà, exactement. Et puis, je pense qu'il n'y a pas d'échéance pour ça. Je pense que j'aurai toujours ce petit moment intense de tristesse et de bonheur à la fois. Et finalement, bon, ben les gens sont gentils. C'est vrai que je préfère parler à un professionnel parce que sinon, on entend souvent « t'inquiète pas, ça va aller » ou
«
sois courageux » ou « t'es courageux ». Et ça part d'un bon principe, les gens veulent aider.
Oui.
Mais c'est énervant, si vous voulez, dans le sens où
je comprends.
C'est pas ce qu'on veut comme
non,
réponse.
Non, parce que parfois, ça, il faut aussi pouvoir laisser sa peine s'exprimer.
Oui, oui.
Là où, spontanément, quelqu'un, comme vous dites, ça part d'un bon sentiment, allez, t'inquiète pas, ça va aller. Ce qu'on peut dire à quelqu'un de malade, on en parlait la semaine dernière avec quelqu'un malade d'un cancer,
ou
d'une autre maladie, ça coupe court. Et la personne peut se dire, bon, au fond, je ne peux pas parler de ce que je ressens. Et par moment, le fait de pouvoir déposer son fardeau, déposer son chagrin, déposer son angoisse, sa peur de l'avenir, et que quelqu'un puisse entendre, en fait, puisse être là à l'écoute, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a à recevoir. Écouter, entendre, tenir symboliquement la main, en fait, dire je suis là avec vous, je vous tiens, je ne vous lâche pas.
Oui. C'est vrai qu'on peut, pas en vouloir aux gens. C'est vrai que on a déjà tendance à se marginaliser, pas se marginaliser, mais se
remplir un peu, c'est normal, hein, s'il y a un temps de repli sur soi.
Oui.
Mais j'ai l'impression que ce temps-là, vous l'avez déjà surmonté, même s'il y a encore des moments. Vous voyez, quand vous me dites vous allez dans votre potager, actuellement il y a à faire en plus dans un potager, dans les jardins.
Beaucoup,
je ne sais pas ce que vous êtes en train de semer. Qu'est-ce que vous en êtes où là dans votre potager?
Je plante des haricots verts, plante une salade, regarde pousser, comme si ça allait tout d'un seul coup transformer ma vie, mais ça sent bon, la même odeur qu'elle sentait. Les fleurs sont magnifiques comme elle les voyait. C'est beaucoup au travers, si vous voulez, c'est un peu comme si je me mettais derrière ses yeux. Je voyais les mêmes choses, je sentais les mêmes choses. C'était vraiment une vie très très fusionnelle et c'est bien quand même, même si c'est parfois maintenant plus mélancolique que triste, parce que je sais qu'elle aimait beaucoup ça. Mais toutes ces fleurs repoussent,
c'est
des jolis bouquets. Et ça, c'est le bon côté. Je me rends compte qu'il y a des choses que je commence à me réapproprier le bonheur.
Oui,
c'est ça. Quelques scènes de bonheur.
Des petits instants, comme ça, des petits fragments que vous savez apprécier. Ça, c'est un signe que vous allez vers le mieux. Vous voyez,
c'est
la nature, en cela, elle est très réconfortante. Et,
oui,
et en plus, à cette période de l'année, on est dans le renouveau. Il y a des cycles, en fait.
C'est la plus merveilleuse.
Pour que naisse le fruit, il faut que la fleur meure. Enfin, il y a quelque chose dans le cycle de la nature aussi.
C'est
qui est réconfortant.
C'est vrai. Ben écoutez, je vais laisser ma place à d'autres personnes. Je suis très touché et très heureux d'avoir pu parler avec vous.
Mais moi aussi, Philippe.
Et d'avoir ces conseils. Et finalement, ça va dans le sens de ce que j'essaie de faire. Et
je pense que vous êtes sur la bonne voie. Mais vous savez, il y a beaucoup de réactions avant qu'on se dise au revoir. Je vous remercie d'ailleurs de penser aux autres.
Dire
je vais laisser la place, comme vous le faites.
D'accord.
Il y a quelqu'un qui dit le message n'est pas signé, mais qui dit peut-être que par rapport au flash qu'il évoque à ces images parasites, des images traumatiques de votre femme,
absolument,
des séances de MDR pourraient peut-être l'aider.
Ah oui, peut-être.
Vous pourriez en parler à votre psychologue, même si elle ne pratique pas, elle connaît peut-être un psychopraticien, parce que dans les états de stress post-traumatique, ça fonctionne bien, le MDR.
Ah oui,
ça vaut peut-être le coup d'essayer.
Oui. J'y pensais pas. Je vais lui en parler. C'est une bonne idée. C'est justement pour ça aussi que j'avais téléphoné, parce que j'entendais des gens qui apportaient leur conseils, qui apportaient leur vécu. Et je trouve que cette émission est vraiment une émission de soutien, d'écoute. Et je tiens à vous remercier, ainsi que les auditeurs, mais je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu rappeler, parce que ça m'a fait un bien fou.
Ah bah écoutez, c'est le, vous voyez, merci, c'est notre raison d'être. Nous, vous nous merci, dites tout avec vraiment... ces quelques mots. Il y a beaucoup de messages. Il y a Michel de Bayonne qui dit, qui cite Sœur Emmanuelle, qui disait que l'amour est plus fort que la mort. Oui, Michel, oui. La vie finit par toujours être plus forte que la mort.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'autant que Sœur Emmanuelle pouvait parler de ça parce que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et je remercie également la personne qui a dit ça. Et je vais tout de suite reprendre le transistor pour écouter.
Mais peut-être. Alors avant de en direct. Dans, voilà, Paul a des réactions. Voilà plutôt.
Alors vous parliez de MDR il y a quelques instants. Anne a vécu la même chose que vous. Hein, et son mari est décédé en 2019 des suites d'un cancer. Elle dit pour guérir des images difficiles de sa maladie, j'ai fait quelques séances de MDR. Voilà. Ça a fonctionné
et ça l'a aidé.
Pour Anne.
Tant mieux.
Il y a Estelle qui est admirative, qui dit quel courage, Philippe. Elle a vécu la même chose, elle, avec sa maman, qui aussi a eu un cancer du foie pendant 7 ans. Elle dit c'était une maman extraordinaire, comme votre épouse, qui ne se plaignait jamais, faisait énormément pour les autres. Il y a Marie-Claude aussi, qui, comme la vie d'après est difficile, accompagner son compagnon de vie vers la séparation ultime laisse un vide abyssal. Pas tout à fait 2 mois entre le verdict et la fin pour Marie-Claude, mais 2 mois d'amour, de paix, et c'est une consolation qui permet de rebondir. Et puis aussi, il y a Annie qui dit que d'amour dans vos mots, Philippe, le véritable amour. Moi, je peux vous conseiller de regarder des photos, des images positives avant de vous endormir, pour chasser un peu les images choquantes. C'est un bon moyen pour trouver le sommeil plus sereinement.
C'est vrai, je crois qu'il faut que je le fasse un petit peu parce que il y a pour une image qui fait mal, il y en a 1000 qui font du bien. Donc je remercie en tout cas les gens qui ont apporté leur petite note de vécu parce que ça m'aide également et je suis content. Je vais dormir apaisé pour ce soir.
Bah alors écoutez, tant
merci
mieux.
Beaucoup.
Bah alors écoutez, passez une nuit paisible Philippe et puis faites une caresse au petit chien, il dort avec vous.
D'accord. J'ai pas entendu le
dernier. Il dort avec vous, le petit chien, ou...
Alors, j'ose pas dire oui.
Bah, si, mais, vous pouvez.
Mais alors, je vais lui dire, je vais vous dire, il dort par terre, et dès que je dors, il monte sur le bout du lit.
Ah, tiens, c'est un petit malin. Il est malin.
C'est un petit malin, mais qui se rend compte des moments tristes.
Mais bien sûr.
Qui est là, et je suis persuadé qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose. Et j'ai un bon compagnon. C'est ma femme qui me l'avait offert, donc je comprends.
Je comprends. Donc il attend, il espère que vous allez passer une nuit paisible pour vite se caler, venir vous réchauffer.
Exactement, c'est exactement ça.
Je vous embrasse alors Philippe.
C'est gentil, merci beaucoup
et puis, pour votre appel.
Bonne fin de
soirée, de nuit, on ne sait plus. Au revoir Philippe.
Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.